Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Sylvie Arburger pour le catalogue raisonné de l'œuvre de Francis Arburger, votre père donc, un catalogue dont vous êtes à l'origine et qui est sorti aux éditions Gourcuff Gradenigo. Votre père, né en 1905 à Oran, a fait les arts décoratifs et les beaux-arts à Paris. En 1940, en raison des lois anti-juives, il s'installe à Alger où il poursuit sa carrière d'artiste peintre. Ses biens, son atelier parisien et une partie de sa production sera spoliée pendant la guerre et sa vie durant, il tentera de retrouver les traces de ses œuvres disparues. Avec ce catalogue qui est à la fois un livre d'art et une véritable enquête, c'est un peu la poursuite, voire l'aboutissement de cette recherche que vous avez réalisée, on va y revenir. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter, Sylvie Arburger, votre père et son œuvre ?
Merci, ben bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, mon père est né en 1905 en Algérie, à Oran. Assez jeune, même très jeune, sa mère, qui était elle-même artiste peintre, s'appelait Célestine Aboulker, repère que son fils a des dons pour la peinture et donc l'autorise à faire même une école municipale des beaux-arts à Oran, alors qu'il a 14 ans. Donc il rentre très jeune dans une scolarité artistique. Et effectivement, il vient à Paris en 21, où il rejoint son frère qui lui est étudiant en médecine à Paris. Et il rentre aux Arts Déco en 21, puis aux Beaux-Arts en 23. Il complète après sa formation artistique en allant à la Casa Velázquez à Madrid, qui est un petit peu l'équivalent de la Villa Médicis à Rome. Et là, il passe aussi une année scolaire avec beaucoup de visites et de copies dans les grands musées espagnols. Il en parlait souvent parce que je crois que ça a été une période qu'il a vraiment marquée sur le plan pictural. Et puis, il revient après à Paris, où ses parents se sont installés entre-temps, puisqu'en 27, les parents s'installent à Paris après la mort de leur fils aîné. Et là, il commence déjà à exposer, à peindre, à vendre. Il fait sa première exposition particulière en 1930 dans une galerie qui se situe rue La Boétie. Il a une carrière, il expose dans les salons, au Salon des indépendants, des surindépendants, au Salon d'automne. Il est déjà, en quelque sorte, il a une notoriété, disons, dans le milieu artistique, dès les années 30. Il expose également à l'exposition internationale en 1937, notamment dans un pavillon qui était un pavillon construit par Malet Stevens. Disons, il est un artiste, d'après ce que je comprends, ce que je lis et ce que je lis des critiques aussi suite aux expositions, un artiste reconnu, disons, dans ce Paris d'avant-guerre. En 1933, il se marie avec ma maman qui est Janine Alf, qui est la fille de Sylvain Alf, qui était secrétaire général de l'Alliance israélite universelle. Et il s'installe dans un atelier qui est en même temps un appartement à Montmartre, rue Égisip Moreau. Et ils ont des enfants, un petit garçon et une petite fille, ma sœur Marianne, qui est née en 1938. La guerre les surprend, quoi. Je veux dire, c'était une famille qui était bien installée à Paris, et en 39, donc mon père est mobilisé. Donc il part à l'armée, et la famille qui était en vacances en Normandie reste en Normandie, et ma mère et ses enfants, et aussi ses beaux-parents, ne reviennent pas sur Paris. Ce qui est une bonne idée, et la famille donc fuit dès que les bombardements sur la Normandie se produit, c'est-à-dire très tôt en 40, en juin 40. Donc, il fuit vers le sud pour rejoindre, en fait, mon grand-père, donc le secrétaire général de l'Alliance, puisqu'entre-temps, l'Alliance a déménagé à Vichy, c'est-à-dire a suivi le gouvernement à Vichy, puisqu'ils étaient subventionnés par le ministère des Affaires étrangères, etc. Et donc, il rejoint Vichy. Entre-temps, donc après, au moment de la démobilisation, mon père rejoint sa famille et décide de quitter la métropole, sentant que la situation était très dangereuse pour les Juifs, et d'aller en Algérie, où il y avait encore de la famille, enfin, ils avaient encore des contacts, quoi. Et donc, il s'installe en Algérie, et là, il passe la guerre à Alger, à El Bihar, exactement, où là, mon père n'a pas le droit d'être d'enseigner à cause des lois anti-juives de Vichy. Et donc, il gagne sa vie, en fait, en peignant et en exposant et en vendant. Donc là, il a une production très importante que j'ai pu constater en élaborant le catalogue raisonné. Et une production qui est essentiellement vendue, c'est-à-dire qu'il a énormément de clients de ses expositions. Il fait grosso modo deux expositions par an, une à Alger, une à Oran, etc. Donc c'est vraiment une activité artistique très importante. Voilà, donc après la guerre, mes parents reviennent à Paris. Et là, effectivement, comme vous y avez fait allusion, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire, il n'y a ni atelier, ni appartement. Donc, ils s'installent dans un petit appartement en banlieue. Et c'est seulement en 1956 qu'ils retrouvent un atelier, que mon père retrouve un atelier à Paris. Alors, sur le plan pictural, ce que je peux en quelques mots dire, c'est que, avec une formation artistique, donc très éclectique en quelque sorte, il fait une peinture essentiellement figurative de paysages, beaucoup de paysages d'Algérie, de natures mortes, de portraits, beaucoup de portraits des notables, entre guillemets, de la société juive d'Algérie, par exemple, ce qui est assez, qui est comme un témoignage finalement de cette période où la communauté juive était très nombreuse et très vivante et très active à Alger et à Oran.
On peut dire qu'il était engagé justement en tant qu'artiste juif.
Alors à ce moment-là, je ne sais pas, pendant la guerre c'était pas tout à fait opportun, mais disons la communauté juive en tout cas en Algérie était très structurée, comme vous le savez sûrement, ce sont de jeunes juifs qui ont préparé le débarquement des Américains en 42, puisque c'était des cousins de mon père, de la famille Aboulker, José Aboulker et toute cette équipe de jeunes juifs résistants qui ont préparé le débarquement. Mais c'est surtout après la guerre que mon père s'est engagé vraiment dans des associations d'artistes juifs, puisqu'il a été, à un moment donné, enfin pendant une dizaine d'années, le président des artistes et sculpteurs juifs de France dans les années 60-70. Donc là aussi, l'activité de cette association était très active, puisqu'il faisait une ou deux expositions par an, avec chaque fois une action un peu militante, c'est-à-dire que les artistes offraient des œuvres pour l'OSE, pour Israël, pour disons des œuvres sociales, quoi, pour des musées qui se créaient en Israël. Enfin, ils ont été tout à fait dynamiques et j'ai l'impression que cette mémoire est un petit peu oubliée maintenant. Mais en tout cas, mon père était très investi dans cette action. Il était aussi professeur, il a été professeur à l'ENIO. Il était professeur avant la guerre et il a été professeur aussi après la guerre. Donc, il était assez, assez proche d'Emmanuel Lévinas. Enfin, il y avait un milieu qui était un milieu ambiant qui était très marqué par le judaïsme, même si c'était pas explicite, c'était comme évident, quoi. Et puis, Il a eu aussi un autre engagement, qui est un engagement qu'il appelait, lui, civique, avec des peintures civiques. C'est-à-dire que en 49, il a fait une peinture à propos de l'Europe, enfin qui s'appelait Fête l'Europe, qui est un triptyque où on voit une famille qui est sinistrée après la guerre, les enfants meurtris et le peintre qui prie pour la paix. Enfin, il y a toute une allégorie dans cette peinture. Il a fait aussi un tableau antiraciste en 1950 qui a été décroché au passage du ministre parce que c'était au moment de la guerre de Corée. Ensuite, il a fait une peinture écologique en 1977. Enfin, il était très engagé dans la vie civique, disons. C'était pas exclusivement. Et puis, il était à la LICRA, au MRAP, enfin, dans toutes ces grandes associations. Et sur le plan pictural, donc, ce qui est important, je pense, dans son évolution, c'est que à partir de l'après-guerre, donc des années 50, de 52 exactement, il invente ce qu'il appellera un nouveau langage pictural. Qu'il appelle, en suivant cela, les recommandations d'un professeur d'esthétique à la Sorbonne qui s'appelait Étienne Souriot, et que Étienne Souriot a appelé des hiéroglyphes. Donc, c'est une représentation de la réalité en deux dimensions. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter la perspective, l'ombre et la lumière, il représente les objets à plat en cernant les objets d'un trait qui leur donne, disons, qui permet de les identifier, quoi. Et cette manière de hiéroglyphe, qui est néo-cubiste en quelque sorte, a été, c'est très curieux, enfin, aujourd'hui est considéré comme la façon, enfin, l'innovation qu'introduit Francis Arburger dans la manière de peindre. Et à l'époque où il l'a fait, ça n'a pas été tellement considéré. C'est-à-dire qu'il était connu dans une manière réaliste, naturaliste, traditionnelle, disons. Et cette manière-là n'a pas été forcément comprise à l'époque par les critiques. En tout cas, lui, il estimait qu'il n'était pas reconnu pour cela. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, les amateurs et même les conservateurs de musées ont considéré que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant.
C'était la partie la plus intéressante.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu une grande exposition à Roubaix, en 2008-2009, au musée La Piscine, qui comportait une centaine d'œuvres de ces fameux hiéroglyphes. Et
Ce sont ces œuvres donc, qu'on peut retrouver dans ce catalogue raisonné, auquel on va peut-être venir, ne serait-ce que sur la genèse. Alors, vous dites dans l'avant-propos que vous avez pu vous appuyer sur des documents manuscrits établis par votre père et votre mère, donc, qui, dès 1940, alors peut-être avec la conscience ou la préscience des pillages en cours, ont commencé à répertorier et numéroter toutes les œuvres. Donc, j'imagine que ça a été la base de votre travail et que ça vous a été très utile justement pour retrouver les tableaux qui avaient été spoliés, puisque, et vous allez peut-être nous expliquer leur rôle, c'est notamment le COSI, le Comité Ouvrier de Secours Immédiat, qui a joué un rôle fondamental dans la spoliation de cet atelier parisien de votre père.
Oui, tout à fait. Je vais peut-être revenir un tout petit peu sur la base dont je me suis servi pour élaborer effectivement ce catalogue raisonné, qui était une base que mes parents avaient constituée. Donc là, je parle au pluriel parce que ma mère était bibliothécaire et je pense que c'est elle qui a imprimé, disons, la méthode du catalogage, quoi, avec quelque chose de très rigoureux et de très précis, qui me permet à moi d'enrichir finalement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je vois qu'effectivement, ils essayent de reconstituer la carrière d'avant-guerre. Parce qu'il y a un certain cahier où il y a des photos des œuvres, des photos en noir et blanc, avec des points d'interrogation sur l'année au cours de laquelle ce tableau a été exposé au salon. Est-ce que c'est en 1931 ou 1932, point d'interrogation. Et donc moi, ce que j'ai fait à partir de ça, c'est que j'ai pu dans certains cas compléter, parce que j'ai regardé les catalogues des salons et j'ai vu que c'était plutôt 31 ou plutôt 32, c'est selon. Et puis j'ai donc, enfin, c'était un premier élément sur la partie la moins renseignée de l'œuvre, qui est effectivement la période d'avant-guerre, puisque tous les tableaux avaient disparu, en dehors des tableaux qui avaient été vendus, qui avaient été acquis par l'État, donc qui se trouvaient dans des musées, ou qui étaient chez des collectionneurs que je pouvais identifier comme ça. Ensuite, sur la période 40-48, c'est-à-dire quand ils sont en Algérie, là je vois qu'ils tiennent un cahier manuscrit extrêmement précis de tous les tableaux, de tous les tableaux exposés, de quand ils ont été exposés, qui a acheté, l'adresse du collectionneur, enfin, quelque chose d'extrêmement précis, sauf ce que je n'ai pas à cette période-là, ce sont les photographies des œuvres. C'est-à-dire, il y a des photographies des expositions, donc j'essaye de repérer à partir des photos d'expositions, mais il n'y a pas de photographies des œuvres. Et puis, à partir des années 50, là, j'ai un document qui est comme un inventaire manuscrit où effectivement les tableaux sont répertoriés, il y a des petites photos et j'ai, disons, l'histoire de l'œuvre jusqu'au jour où l'inventaire a été fait. Donc moi, tout mon travail après, ça a été d'actualiser. Et notamment, un des problèmes principaux que j'avais, c'était de savoir où étaient les tableaux aujourd'hui. Parce que même si je savais que Monsieur Intel avait acheté en 1956, je ne savais pas où le tableau se trouvait en 2015, quoi. Donc, c'est ce travail-là que j'ai fait. Alors, pour la partie des œuvres d'avant-guerre, puisque vous me posiez cette question, donc, j'ai découvert, enfin, j'ai confirmé finalement deux hypothèses que mes parents avaient faites et qui se sont révélées exactes, sauf que moi, j'ai pu avoir accès aux archives, donc j'ai conforté leurs hypothèses et j'ai pu mettre des dates et d'autres précisions dessus. C'est que la première histoire qui est assez romanesque, c'est que mon père, lors d'une de permission en mars 1940, protège une quinzaine d'œuvres en les mettant dans la chambre forte de l'Alliance israélite universelle rue La Bruyère. Donc je pense que c'est mon grand-père qui a dû conseiller, par crainte des bombardements sur Paris, de mettre les œuvres à l'abri. À l'époque, on ne pensait pas aux spoliations, on pensait aux bombardements. Donc ces tableaux-là, curieusement, ils sont spoliés par les nazis tout de suite quand les nazis rentrent à Paris en 40. Donc ils sont appris en juin 40 et ils vident la bibliothèque de l'Alliance début août 40. Donc c'est immédiat.
Oui, très tôt, oui.
Très tôt, et ça Martine Poulain l'explique bien. Qu'ils savaient où ils allaient et ils connaissaient les lieux, enfin. Donc, la bibliothèque de l'Alliance faisait partie des cibles, si vous voulez, puisque c'était des grandes bibliothèques juives de Paris, quoi. Et donc là, ils prennent 500 caisses de livres, apparemment, d'après ce qu'on sait. Enfin, on sait pas le nombre exact, mais ça tourne autour de ça. Et ça part en Allemagne immédiatement, ça part à Francfort, dans l'école des cadres nazis, à l'Institut des études juives à l'intérieur de cette Hochschule. Et donc là, le circuit, je peux l'identifier parce que ces caisses, donc, qui contiennent des livres, contiennent aussi des œuvres d'art, et on le sait a posteriori, puisque de Francfort, les Allemands eux-mêmes les mettent à Ungern pour les protéger des bombardements alliés, et à Ungern, les Américains les trouvent en février 45, en ouvrant les lieux où étaient stockées les œuvres spoliées. Et les Américains les déménagent d'abord à Offenbach parce que c'est des caisses de livres et que c'est le dépôt des livres à Offenbach, et puis ensuite à Wiesbaden puisque c'est le dépôt des tableaux dans la zone américaine à Wiesbaden. Et donc là, les Américains font des fiches qu'on appelle des property cards, comme des cartes d'identité des tableaux, et ces fiches sont accessibles sur Internet dans les archives américaines. Et ces tableaux ont une histoire vraiment curieuse, puisque en 48, quand les Américains décident de fermer leur collecting point, ces tableaux, on n'a pas identifié leur propriétaire. Mmh. On a identifié quel est l'artiste, parce que mon père signait ses œuvres, donc c'est bien des fiches de tableaux de Francis Arburger, mais ça part en Israël. C'est-à-dire qu'en 48, les Américains ferment les collecting points et confient à un organisme qui s'appelle le GIRSO, Jewish Restitution Successor Organization, qui est chargé de d'envoyer en Israël les biens juifs non identifiés. Donc, les tableaux de mon père arrivent en Israël, au musée Betzalel, à l'époque. Et au musée Betzalel, j'ai pu voir le livre d'inventaire et les tableaux sont inventoriés, voilà. Et Israël en restitue 3 à mon père en 1962 et 1 à moi en 2008. Donc voilà l'histoire des tableaux qui étaient dans la chambre forte de l'Alliance, puis à Wiesbaden, qui se retrouvent en Israël. 4 sur 10 sont restitués. Alors l'autre histoire, c'est l'histoire de l'appartement. Donc l'appartement, vraisemblablement, il a été pillé par ce fameux organisme qui s'appelle le COSI, qui veut dire Comité Ouvrier de Secours Immédiat, qui est un organisme humanitaire qui est créé par Vichy avec l'aide de l'ambassade d'Allemagne en 1942, après le bombardement par les Américains de par l'aviation anglaise de Boulogne-Billancourt. Et donc là, il y a des gros dégâts, il y a des sinistrés, et on décide de créer un organisme qui va apporter secours aux sinistrés. Donc c'est ce COSI qui récupère pour se faire l'argent qui a été volé aux Juifs, et qui récupère aussi les biens des Juifs. Mmh. Donc, c'est cette ambivalence, si vous voulez, de ces organismes humanitaires créés par Vichy, qui à la fois apportent secours aux sinistrés, en leur donnant de l'argent, des meubles et de quoi vivre, sauf que d'où viennent ces meubles et cet argent? Des biens spoliés aux Juifs, quoi. Donc, cet organisme, en dehors de cette radia, disons, sur les biens juifs, vend les choses de valeur qu'il a trouvées dans ses appartements, puisque dans les appartements, il y avait tout. Il y avait effectivement des tables et des chaises, mais il y avait aussi des bijoux, des œuvres d'art, des tapis. Et donc, ils vendent. Et ils vendent aux enchères. Et comment j'arrive à savoir ça? Parce que mon père, en 48, trouve dans une... au marché aux puces de Vanves, il trouve un tableau que mon cousin Jacques Lévy, qui était libraire, voit. Et donc, immédiatement, l'histoire familiale raconte que ma mère saute dans un taxi et va acheter le tableau. Donc, elle achète le tableau.
Un tableau de votre père?
Un tableau de mon père.
Incroyable.
Qui était en vente. Et il paraît qu'à l'époque, il n'y avait pas de toile et que les artistes achetaient des tableaux pour peindre dessus. Bon, puis il y avait aussi peut-être des gens qui achetaient des tableaux pour des tableaux, quoi. Mais en tout cas, il y avait urgence. Donc, ils achètent le tableau. Et puis, le lendemain ou surlendemain, mon père retourne et va interroger le vendeur en lui disant « Mais à qui avez-vous acheté ce tableau ?» Alors, il remonte la filière. Et c'est une dame qui dit « J'ai acheté à monsieur machin, qui est 3 allées avant. » Il va voir le monsieur, il lui dit « À qui avez-vous acheté ?» Bref, il remonte jusqu'au vendeur, qui est un huissier de justice de Sceaux, qui a vendu. En vente aux enchères. Et alors, il va voir l'huissier de justice de Sceaux, il lui dit « Mais pour le compte de qui avez-vous vendu ?» Et le gars dit « Pour le compte du Comité ouvrier de secours immédiat. »
Donc, comme ça qu'il
mon
a
père
su...
signale ça, mais il ne sait pas ce que c'est. En 48, personne ne sait ce que c'est que le COSI. Il signale au MRA, puis il écrit tous azimuts au ministère en disant « Voilà, c'est bizarre, mon tableau a été vendu par le COSI. » Et alors lui, donc, il repère cette piste, il l'écrit sur un petit cahier que moi j'ai remis au mémorial, aux archives du mémorial. Tout est noté en détail, tel jour, etc. Il obtient même la date des ventes aux enchères de ce cosy. Et ce que j'ai moi découvert, et je ne sais pas si mon père l'a su, j'ai découvert ça dans les archives de la CIVS, qui elle-même l'avait trouvé aux archives nationales, c'est qu'il y a eu une enquête judiciaire et policière. C'est-à-dire que le ministère a demandé au parquet de la Seine de mener l'enquête et que ces gens ont été interrogés, etc.
Pendant la guerre, voilà. déjà, ils étaient soupçonnés de malversations.
Pendant la guerre, non, après la guerre. Après la guerre, ils ont été donc... Ils ont été jugés pour malversation, pour vol, ils s'étaient enrichis, enfin c'était des des brigands, enfin, qui vivaient sur un grand pied, qui déjeunaient chez Maxime,
oui,
enfin,
c'est ça, c'est...
ils ont été condamnés après la guerre, et ils avaient un trésor de guerre dans des banques suisses, enfin bon, c'était... Alors, donc cette histoire est...
Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, juste pour, en quelques mots, si vous le pouvez, parce que voilà, c'est une longue histoire. Où en êtes-vous de vos recherches actuellement ? Apparemment, il y a certains tableaux détenus par des musées français. Vous avez réussi à retrouver leur piste, mais que ces musées ou ces institutions ne retrouvent pas. C'est bien ça ?
Non, bah ça, si vous voulez, je crois que c'est l'histoire de toutes les réserves des musées. Ça n'a rien à voir avec la guerre, C'est que il y a des tableaux dans les réserves, ils sont répertoriés, ils sont inventoriés, ils ont un numéro d'inventaire, mais on ne sait plus où ils sont. Alors bon, je ne sais pas. Ça c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se sont servis au passage parce que les tableaux, quelquefois, ils sont exposés dans l'appartement du directeur de cabinet d'un ministre, je ne sais pas quoi, ou dans un ministère. Et donc, au fur et à mesure des déménagements, etc., on perd un peu leurs traces.
Oui.
Mais moi, ce qui comptait pour le catalogue raisonné, ce que j'ai réussi à faire, c'était avoir une photo de tous les tableaux. Donc, quelquefois, c'est des photos en couleur quand les tableaux, justement, ont été retrouvés. Quelquefois, des photos en noir et blanc quand, je sais pas où sont les tableaux, mais ils sont identifiés, ils sont numérotés. Et donc, au total, j'ai identifié 1600 tableaux et 1200 photos. Donc, voilà, il reste encore des choses à découvrir, mais c'est possible. D'ailleurs, déjà, depuis que j'ai fini le livre, il y a déjà une vingtaine d'œuvres qui sont réapparues, oui.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Sylvie Arburger. Je rappelle donc que le catalogue raisonné de l'œuvre de Francis Arburger est disponible aux éditions Gourcuff-Gradenigo. Il faudra qu'on vous invite une nouvelle fois pour reparler de toute cette histoire et surtout de la manière dont vous avez pu retrouver la piste de ces tableaux. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.